Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Marguerite Caton, mais aussi Mélanie Chalandon, Maïder Gérard, Corentin Mansois, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Ludovic Auger. Troisième temps de notre série que nous consacrons au Rwanda, 25 ans après le génocide. Lundi, nous observions la reconstruction de la société et de la mémoire collective après le génocide. Hier, c'est le succès politique de Paul Kagame et du Front Patriotique Rwandais qui nous intéressait. Aujourd'hui, place à l'analyse des succès économiques. La croissance avec ou sans développement, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
It is a great pleasure for me.
C'est un grand plaisir pour moi et pour tous les Rwandais de vous accueillir ici à Kigali pour cette nouvelle édition de ce forum Africa CEO.
Nous devrions réduire la part de la population qui travaille dans le secteur agricole, qui représente toujours 70% des travailleurs, et avoir plus de personnes qui travaillent dans l'industrie et les services. Et une fois que nous y serons parvenus, notre ambition en tant que pays, c'est que le Rwanda devienne une économie basée sur les services et la connaissance.
Je pense que le Rwanda a construit cette plateforme qui permet à chacun de se lancer et de favoriser les créations innovantes. En définitive, on peut considérer que les infrastructures de ce pays font du Rwanda un laboratoire test en la matière. Si on crée des solutions innovantes, le gouvernement est plus que favorable à celles-ci et donc on peut ensuite les déployer dans les autres pays d'Afrique.
Voilà, on entendait à l'instant Paul Kagame, le président rwandais, lors de l'ouverture d'un forum économique qui s'est tenu il y a quelques jours en Rwanda. On entendait Claire Akamanzi aussi, directrice de l'Office rwandais du développement, mais aussi un entrepreneur nigérian dans les nouvelles technologies qui se réjouit de s'être établi à Kigali et qui profite de son hub et qui souligne les efforts réalisés par le gouvernement pour accueillir les entreprises du numérique. ...8,6% de croissance en 2018, des prévisions à 7,8% pour 2019. Les chiffres du FMI ont de quoi faire rêver n'importe quel pays du monde. Et la petite économie rwandaise, enclavée, dépourvue de ressources naturelles, ravagée il y a 25 ans par la guerre civile, fait figure de miraculé sur le continent. Les recettes ? Révolution verte, transition démographique, mais aussi université et numérique, développement d'un hub régional, compétitivité internationale. Le Rwanda semble bien engagé sur la voie de l'émergence et son président promet à tous un avenir radieux. Mais derrière les succès, on trouve aussi des chiffres ambigus, des paysans oubliés, une jeunesse qui peine à trouver des emplois, des exportations à la peine, un environnement dégradé et une croissance sous perfusion internationale. Alors peut-on faire la part des succès et des échecs économiques du régime ? Qu'y a-t-il derrière le miracle économique rwandais ? Les conditions de vie de la population se sont-elles véritablement améliorées ? À qui, au fond, profite la croissance du Rwanda ? Pour évoquer toutes ces questions, nous avons deux invités. En duplex, d'abord depuis Bruxelles, Anne Ansom, bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes économiste, professeur en études du développement à l'Université catholique de Louvain et vous êtes une spécialiste du secteur de l'agriculture dont on parlera aujourd'hui. À vos côtés, toujours en duplex, mais depuis Toulouse cette fois, Lauriane Ouizaïmana, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes vous géographe et professeur émérite à l'Université de Toulouse. Alors, on est à 4 jours maintenant du démarrage des commémorations des 25 ans du génocide dont le thème est « Souvenir, unité et renouveau ». Ce renouveau, c'est aussi évidemment celui de l'économie rwandaise dont on répète à l'envi qu'elle s'est incroyablement développée depuis 1994 avec, je le disais, une croissance de 8% pour 2018, une prévision très intéressante à 7,8% pour 2019. Les observateurs présentent souvent le pays comme un modèle de développement et une formidable réussite économique. D'abord, que vous inspirent ces louanges ? Anne Ansom, on va commencer avec vous, adressée à cette économie rwandaise. Est-ce qu'elles vous réjouissent ou est-ce qu'elles vous semblent peut-être masquer une autre réalité, peut-être un peu moins reluisante ? Anne Ansom.
Tout d'abord, je pense qu'effectivement, il y a des points forts positifs à souligner. Cette croissance économique que vous venez de soulever, c'est certainement un accomplissement dans un pays qui était vraiment dévasté après la guerre civile et le génocide en 94. Et il y a aussi vraiment eu des développements, surtout par exemple dans l'infrastructure. Je pense que ça a été assez spectaculaire, ce qu'on a vu naître dans la ville capitale, mais aussi en dehors. Et il y a d'autres accomplissements au niveau économique qui sont tout à fait réels. industriel, dans le secteur des services et d'industrie. Mais effectivement, je pense qu'il y a un autre côté, un côté moins visible peut-être, mais c'est le fait que la répartition de cette croissance a été inégalitaire. Elle a atteint des élites en ville, elle a certainement fait une certaine... elle a fait naître une nouvelle économie au sein du Rwanda, mais en même temps, il y a pas mal de populations qui ont été exclues de cette croissance ou qui ont en tout cas du mal à y faire part.
On verra évidemment quelle est cette population un peu exclue de cette croissance économique, on en parlera. Lauriane Ouezaïmana, même question, que vous inspire cette formidable réussite économique et peut-être en particulier un commentaire sur les chiffres. J'ai parlé de chiffres absolument extraordinaires, 8% de croissance, on table pour 2019 sur 7,8%. Mais c'est vrai que parfois il y a quelques doutes, quelques interrogations sur la véracité de ces chiffres. Il y a par exemple une opposante politique qui est bien connue, qui s'appelle Diane Rwigara, pardon, qui avait été écartée de la course à la présidentielle en 2017, qui a très régulièrement remis en cause la véracité de ces chiffres. Elle a raison, les chiffres sont assez largement enjolivés.
Et c'est ça qui est étonnant par rapport justement au Rwanda. Bon, il y a évidemment le drame de 94, 94 pour les Belges. Et ce drame fait que, pour moi, il y a une grosse complaisance de la part des organisations internationales qui acceptent des chiffres qui manifestement sont totalement faux. Eh bien, on se disait que c'était impossible, mais la Grèce, l'exemple de la Grèce, a montré qu'il y a des très faciles de falsifier les données économiques.
Oui, parce que c'est des chiffres du FMI que je citais, mais vous dites, quand même, ce sont des chiffres du FMI, ils sont probablement surestimés.
Mais bien entendu. Et pour cela, il suffit de regarder les chiffres de la production, parce que pour qu'il y ait une croissance, il faut quand même qu'il y ait, dans un monde globalisé, et il faut que le Rwanda offre au monde, à l'extérieur, quelque chose. Alors, quand on regarde les données du commerce extérieur, on se rend compte que, par exemple, en 2015, eh bien, les exportations représentaient le quart en valeur des importations. Et quand vous regardez, justement, quelles sont les exportations, eh bien, vous vous rendez compte que, bon, il y a les mines. Dernièrement, là, il paraît qu'en 2017, l'exportation minière a été multipliée par 200, c'est-à-dire deux fois, augmenté de deux fois, 200%. Et évidemment, là, c'est tout à fait artificiel, puisque c'est la colombo-tantalite, le coltan, ce qu'on appelle le coltan, qui vient du Congo à côté. Ce qui n'est pas un problème, évidemment, en soi, mais si jamais le chaos du Congo est jugulé, ça va tarir. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on met sur le marché mondial? Moi, je ne vois rien. Et cette croissance, elle y vient d'où?
Donc, pour vous, la croissance n'est pas ce qu'elle est officiellement. Le chômage non plus. Alors, c'est assez difficile d'avoir des chiffres. Mais moi, j'ai trouvé un chiffre qui date de 2017, qui avait été donné par l'Institut national des statistiques du Rwanda. Et on parlait d'un taux de chômage de 16,7%. Ce qui est un chiffre qui est pas très élevé au regard du continent. Pour donner une idée, c'est un chiffre qui se situe entre le taux de chômage en Grèce et en Espagne, qui sont respectivement à 18 et à 14. Là aussi, ce chiffre, il est totalement faux.
Il est totalement faux. Ça dépend évidemment des définitions qu'on donne du chômage. Si le paysan, bon, il travaille évidemment, mais en même temps, c'est un travail qui n'est pas quand même marchand. C'est pas, si c'est marchand, mais quand même, ce n'est pas... Si on prend l'agriculture, le paysan qui cultive son champ comme un travailleur type moderne, d'accord, ça peut être... Ça peut avoir un sens. Mais si on regarde le travail comme un travail essentiellement non agricole, eh bien, là, le chômage, alors, devient catastrophique. Donc, ça dépend du point de vue de là où on se place.
On parlera en particulier de l'agriculture tout à l'heure avec Anonsom, parce que vous connaissez particulièrement ce secteur-là. Anonsom, justement, on parle de chiffres. Regardons le chiffre de la pauvreté. Quand on regarde les chiffres officiels, on voit que cette pauvreté, elle a considérablement reculé. Elle est passée de 59% en 2001 à 45% en 2010 et même à 39% en 2014. Là aussi, on peut remettre en cause la véracité de ces chiffres et peut-être même le recul même de la pauvreté au Rwanda.
Mais en fait, moi, je trouve dire que les chiffres sont faux ou sont vrais, c'est un peu difficile à dire. peut-être que bon, tout dépend des méthodologies qu'on utilise. Et donc souvent on fait des grandes déclarations sur base de chiffres en les prenant comme des vérités en absolu, ou on refuse ces chiffres en disant qu'ils sont faux ou qu'ils sont pas vrais. Mais tout dépend des méthodologies. Et donc une fois qu'on veut vraiment creuser là-dedans, les choses deviennent souvent très compliquées et très techniques. Par rapport aux chiffres de pauvreté, donc là aussi il y a toute une polémique sur les chiffres, et c'est assez clair qu'entre 2001 et 2011, la pauvreté a fortement diminué sur base des chiffres d'une enquête très qui allait très loin. Depuis lors, depuis 2011, le bilan est plus mitigé selon les calculs, en tout cas les méthodologies faites par le bureau de statistiques du Rwanda. La pauvreté a continué à diminuer assez fortement entre 2011-2014 et beaucoup moins entre 2014 et 2017. D'autres auteurs ont utilisé ces mêmes chiffres, mais ont appliqué un autre taux d'inflation. Et donc là, les résultats changent. Et donc là, on voit un bilan différent.
Change jusqu'à quel point ? Jusqu'à quel point ça change ? La pauvreté augmente ?
Oui, depuis 2011, ça dépend de nouveau des méthodologies qu'on utilise, mais depuis 2011, je pense que le recul, en tout cas, la forte chute de pauvreté a été ralentie et même a renversé. Tout dépend des méthodologies, et donc il faut vraiment se plonger et voir ce qu'on trouve plus ou moins crédible. Ce qui est assez intéressant, c'est que depuis le dernier temps, ce débat a été mené sur un format de blog scientifique, et les auteurs qui ont fait ces analyses ont aussi posté tous leurs fichiers, comment ils ont fait. Et ça me semble une bonne pratique de montrer comment on a fait les analyses et sur quelle base d'assomption qu'on part pour faire des déclarations sur les chiffres.
Pour continuer sur cette question des chiffres et parler en particulier de la question des investissements extérieurs, Lauriane Wisaimana, là aussi on voit qu'il y a des décalages. Il y a par exemple le Rwanda Development Board qui nous dit que les engagements d'investissement s'établissent à 1,67 milliards de dollars pour 2017, mais la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement a publié un rapport récemment sur l'investissement qui parlait de 366 millions de dollars effectivement décaissés pour l'année 2017. Donc on voit que là aussi, il y a une vision au fond assez faussée qui peut être présentée. Mais au-delà de cette question des chiffres, sur les investissements extérieurs, est-ce qu'il n'y a pas un risque aujourd'hui au Rwanda, parce qu'on sait qu'il a bénéficié d'aides extérieures extrêmement importantes, que ça représentait jusqu'à quasiment 40% de son budget de fonctionnement, est-ce qu'il y a un risque dans cette dépendance à l'aide extérieure? Et est-ce qu'au fond, on peut dire que l'économie rwandaise aujourd'hui, eh bien, elle est totalement sous perfusion, Lauriane Wisaimana?
Elle est, comme vous le dites, elle est sous perfusion dans la mesure où vous avez vu les exportations, j'ai parlé un peu des exportations, de l'écart entre importation et exportation. Alors, on parle du budget, quand vous regardez le budget, il est plus ou moins équilibré au budget de l'État. Mais en réalité, il faut savoir que les aides extérieures arrivent directement au gouvernement, ne vont pas dans les projets comme dans le passé. L'aide allait dans les projets de développement essentiellement agricole. Maintenant, l'aide va directement dans les mains entre les mains de l'État. Ce qui fait que, évidemment, le déficit est faible. Bon, pour ce qui est des investissements extérieurs, On en parle, mais la plupart du temps, j'ai l'impression que c'est des sortes d'éléphants blancs qui n'ont pas de sens. On va dire, par exemple, Volkswagen va produire des voitures là-bas. Bon, on n'en a pas vu la trace. On nous dit qu'il y a un Américain qui va investir pour enrichir le coltan. Mais il serait fou de le faire puisque le coltan vient de l'extérieur.
Mais il vient de la RDC, en particulier du Nord Kivu, parce que, en gros, tout le coltan qui va du côté de la Chine, il passe quasiment systématiquement par la case Kigali.
Oui,
on n'a pas toujours cette idée-là, mais c'est ça qui se passe, en fait. Hein.
Mais c'est ça, c'est ce qui fait que les exportations, parfois, peuvent augmenter, c'est la façon dont l'arrivée de coltan. Mais on en produit au Rwanda un peu, 60 tonnes depuis toujours, on produit autour de 60 tonnes de Colombo Tantalite. Bon, donc, ces investissements, on ne les voit pas. Et s'il y en a, les quelques qui arrivent, on va sans doute en parler, c'est uniquement dans Kigali. Et Kigali, ce n'est pas le Rwanda. Le Rwanda, c'est les 90% de paysans qui vivent à la campagne et qui, eux, ne voient pas la moindre trace de cette croissance fictive, à mon avis.
Mais je repose la question, est-ce que c'est un problème, cette dépendance aux investissements extérieurs, et est-ce qu'il y a des efforts qui ont été faits par le gouvernement de Paul Kagame pour essayer de sortir précisément de cette situation de perfusion économique, Lauriane Wiseimana?
Il en sortirait comment? Parce que il ne s'agit pas de... Il faut de la production. Il faut de la production, comme partout ailleurs, pour sortir de la dépendance. Il faut produire. Mais on produira quoi? Auparavant, il y avait les mines, justement. La castérite, c'est fini. C'est le minerai de l'étain. Il s'est fini. Presque. Le coltan, c'est quelque... Avant, il y avait le café. Le café qui avait servi d'alliance entre l'État et la paysannerie. Maintenant, le café... Cette alliance est finie. Hein, l'alliance entre l'État et la paysannerie est finie, puisque c'est plutôt la ville qui est privilégiée. Alors, pour sortir de cette perfusion, mais on fera quoi? On fera quoi? Il y a évidemment des stratégies qui peuvent être adoptées. J'en avais proposé quelques-unes dans le passé. Mais maintenant, on ne prend pas le chemin de cette direction. On parle... De services, que le Rwanda serait un pays qui rendait des services aux environs, aux pays environnants. Mais là non plus, je ne vois pas comment, dans un contexte de tension politique, vous savez, les frontières sont fermées maintenant, je ne vois pas comment on va faire la situation, comme le disait Madame Anson, en pire plutôt. Puisque les paysans sont spoliés, si vous le voulez, il va parler de l'agriculture, mais j'en sais quelque chose aussi.
On va en parler dans quelques instants, mais on va poursuivre peut-être un tout petit peu, Anonsom, alors à la fois peut-être sur cette dépendance sur les investissements extérieurs, et puis revenir peut-être un petit peu en arrière pour voir comment est-ce qu'on a pensé les choses au départ. Quand je dis au départ, c'est au lendemain du génocide. Parce que 98, le Rwanda signe un programme d'ajustement structurel avec le FMI. J'aimerais savoir ce qu'il y avait dedans à l'époque, et si ce que nous dit à l'instant Lauriane Wiseimana, c'est-à-dire l'idée au fond de faire du Rwanda une économie de service, si cet objectif-là est déjà défini au départ dans ce programme d'ajustement structurel. Essayons de comprendre ce qu'il y a dedans, Anon Soms.
En fait, je pense qu'il faut parler de différentes phases, parce que il y a eu vraiment des phases différentes depuis 1994. Bon, au début, je pense que l'objectif général était de reconstruire l'économie, reconstruire la société, essayer de redémarrer le pays. Alors, depuis 2000, je pense qu'effectivement, il y a eu une stratégie économique fort orientée vers l'innovation, vers la ville, vers le secteur d'industrie et de services. Et donc là, il y avait vraiment des grandes réclamations de changer le Rwanda dans, je me rappelle dans un document, je disais une économie, un information hub, trilingual, etc. Et donc on a vraiment fait un effort et il y a eu des innovations dans ce sens-là. Mais par contre, je suis pas tout à fait d'accord avec ce que Lauriane vient de dire, que la campagne a été totalement ignorée, parce que depuis 2007-2008, ça a fort changé. C'est vrai qu'avant, la campagne n'était pas vraiment dans le scoop des autorités, mais depuis 2007-2008, il y a eu vraiment un intérêt tiré vers la paysannerie, vers le monde agraire. Et donc là, on a démarré avec un programme très ambitieux de moderniser, de professionnaliser le secteur agraire. Et on a réorienté les politiques et l'attention de l'économie aussi vers ce secteur-là. Bon, par rapport au bilan, on y reviendra. Mais en tout cas, je ne pense pas que la campagne a été totalement ignorée dans cette reconstruction économique.
On va parler justement de l'agriculture dans quelques instants. Mais d'abord, nous allons recevoir nos partenaires de Courrier International avec Sébastien Hervieux.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Bonjour Sébastien.
Bonjour.
Vous êtes le chef de la rubrique Afrique à Courrier International et cette semaine, votre journal fait une couverture spéciale pour le 25e anniversaire du génocide Tutsi au Rwanda. Mais Sébastien, ça n'a pas été si facile que ça de dénicher dans la presse étrangère des articles un peu pertinents sur le Rwanda d'aujourd'hui.
Effectivement, Florian, le pays est très difficile à couvrir pour les journalistes qui veulent apporter un éclairage critique. Rappelons-le, le Rwanda est classé 156e sur 180 pays pour la liberté de la presse, selon Reporters sans frontières. Pour l'Organisation de défense des journalistes, je cite « La censure et l'autocensure sont omniprésents au Rwanda ». Et d'ajouter « Le spectre du génocide de 1994 permet encore de taxer les médias critiques du gouvernement de divisionnistes ». Alors le résultat, la presse rwandaise, comme le New Times par exemple, se cantonne souvent à relayer les informations officielles. Pour la presse étrangère, rares sont les médias qui ont droit d'avoir un correspondant sur place. Les visas sont délivrés au compte-gouttes. Même chose pour les envoyés spéciaux. Et ceux qui se sont montrés une fois un peu trop critiques à l'encontre du pouvoir, eh bien, se retrouvent de facto interdits de séjour.
Bon, mais ça dépend aussi du sujet qu'on veut couvrir, en fait.
Oui, effectivement, les portes sont plutôt ouvertes, voire grandes ouvertes, quand on veut raconter une histoire positive. Prenons des articles piochés dans la presse étrangère et française ces dernières semaines. Voici quelques titres. Le Rwanda devient la destination préférée des amateurs d'écotourisme. Comment des drones sauvent des vies en délivrant des médicaments dans des zones isolées, ou encore ces reportages sur cette école qui transforme les garçons en féministes, ou cette école de design qui, je cite toujours, refaçonne l'avenir de l'Afrique. Alors ces histoires sont bien réelles, Florian, mais leur surreprésentation dans les médias nous laisse penser que le Rwanda est avant tout un formidable oasis de développement. Les critiques ne viennent souvent que d'analyses écrites depuis l'étranger.
Ben justement, un courrier international, vous avez choisi de reprendre un reportage du Wall Street Journal.
Oui, le quotidien financier new-yorkais est allé sur place pour décrire justement les deux facettes du miracle économique tant vanté par les autorités et que décryptent aujourd'hui dans votre émission vos invités. Alors d'un côté, il y a, raconte-t-il, je cite, les immeubles étincelants de Kigali qui sont le signe le plus évident qu'il se passe ici quelque chose de grand. Et le quotidien de lister les avancées. Depuis 2000, la croissance moyenne est de 7,3% par an. La pauvreté a fortement baissé, l'espérance de vie a fortement augmenté. Tout Rwandais dispose désormais d'une assurance santé de base. Et les investisseurs locaux et étrangers peuvent créer une société en 6 heures top chrono. Alors, quotidien rappelle que Paul Kagame est le chouchou du Forum économique mondial et autres conférences internationales. Mais il y a aussi cette face sombre à ce miracle, note le Wall Street Journal. Les grands projets ont fait monter en flèche la dette publique, les investissements se concentrent à Kigali au détriment du reste du pays. Ils se concentrent aussi dans la construction, un secteur qui ne génère pourtant pas beaucoup d'emplois, à l'inverse de l'agriculture et de l'industrie manufacturière. Et enfin, il y a un nombre croissant de chercheurs qui accusent le gouvernement rwandais de manipuler les statistiques de la pauvreté, de la croissance. Et dans les pages de cette respectée revue de l'économie politique africaine, eh bien, il y a certains de ces experts qui jugent même que ce miracle est en réalité un mirage.
Merci beaucoup Sébastien. Cet article, comme les autres sur le Rwanda, sont à lire dans le nouveau numéro de Courrier International, en kiosque demain jeudi, et aussi évidemment sur votre site internet. Merci beaucoup Sébastien. Réaction peut-être, Lauriane Ouzeimana. On le voit là, cette vision un peu biaisée de l'économie rwandaise, qui est au fond l'effet direct d'une liberté d'expression qui est toute relative au Rwanda, Lauriane Ouzeimana.
Oui, voilà. Moi, je serais plutôt sur la deuxième partie de l'intervention du journaliste de Courrier International, parce que on voit bien que il y a une volonté manifeste de montrer des résultats extrêmement positifs. Mais quand vous cherchez à voir un peu derrière, eh bien, vous vous rendez compte que en réalité, ce n'est que du vent. Ce n'est que du vent dans la mesure où la pauvreté est généralisée et même le paysan, parlait du paysan qui est, on s'est occupé un peu de l'agriculture, mais ce paysan est spolié lui-même. Le paysan est spolié dans la mesure où on a instauré, sans doute, j'espère que je ne n'anticipe pas, mais il y a le fait que le parti au pouvoir, finalement, prend toutes les formes, toute la valeur ajoutée du travail des paysans. Ce qui fait évidemment qu'ils ne font que s'enrichir. Le parti s'enrichit alors que le paysan s'appauvrit.
On va on va parler tout de suite d'agriculture. Mais d'abord, je vous propose d'entendre Marc Swibairo Bagabe de l'Office rwandais pour le développement de l'agriculture, justement, qui expose les évolutions auxquelles le Rwanda doit consentir pour se tourner vers une agriculture moderne. Il s'exprimait au micro d'Africa 24 en décembre 2017. Écoutez.
Le document de notre stratégie de transformation agricole est très clair sur certains points. Nous avons besoin très urgent de professionnaliser notre secteur agricole en mettant un accent particulier à la mécanisation et l'irrigation. Et tout cela nous exige de la consolidation en termes de culture et de méthodes de modernisation.
Voilà, alors Anonsom, on arrive donc sur cette question de l'agriculture que vous connaissez tout particulièrement. Peut-être que je vais vous poser une question un peu générale et puis on va détailler au fur et à mesure. Mais si on doit faire une sorte de bilan un peu général de la politique agricole rwandaise depuis 20-25 ans, quel serait ce bilan, Anonsom?
Oh, 25 ans. Je pense qu'elle a démarré en 2008. Avant, il n'y en avait pas vraiment une. Mais depuis 2008, il y a eu donc cette stratégie de transformation, de modernisation, de professionnalisation. Et elle était fortement orientée, comme on vient d'écouter là, vers la mécanisation, l'irrigation et aussi vers la productivité maximale. C'était ça l'enjeu essentiel.
C'est la révolution verte à Nansum, oui, qui avait été prônée par la FMI et la Banque mondiale.
Tout à fait, fortement soutenue par les bailleurs de fonds, effectivement. Et donc, voilà, ça, d'une façon générale, ça a augmenté la productivité en termes de output, hein, de ce qui vient des champs. On s'est concentré sur des cultures de rente, on a poussé les paysans à collaborer, à travailler ensemble au sein des coopératives.
Ouais, l'une des premières mesures à Nansum, je crois, c'était d'inciter les paysans à rassembler leurs parcelles dans des ensembles plus grands pour augmenter précisément les rendements. Et on peut critiquer, bien sûr, cette révolution verte, mais de ce point de vue-là, ça a fonctionné. Les rendements ont beaucoup augmenté dans un premier temps.
Oui, on a démarré dans les marais et après on a aussi inséré les collines. Mmh. Et donc effectivement, on a poussé les paysans à travailler ensemble, à se concentrer sur une ou quelques cultures qui étaient particulièrement bien pour cette région-là et à s'orienter davantage vers le marché, donc de compter sur des échanges au niveau des marchés entre régions. Et donc c'était ça le point de départ qui en tant que tel dans les théories économiques fait sens, hein. On essaye de créer des économies d'échelle, on essaye de pousser les paysans à se concentrer sur les produits qui sont les plus appropriés pour leur terre. Donc en tant que tel, en termes théoriques, c'est certainement une chose qu'on pourrait réfléchir, mais on a vu que sur le terrain ces mesures ont souvent été confrontées à des réalités agroécologiques et socio-économiques différentes. Et donc souvent, ça n'a pas marché ou ça a été beaucoup plus compliqué que prévu. Prévu au départ.
Si on décrit un tout petit peu les choses, et puis ensuite on va passer la parole à Lauriane Ouizaïmana, mais dans ce programme, dans cette fameuse révolution verte prônée par le FMI et la Banque mondiale, il y a eu, je le disais, donc ce principe consistant à rassembler un petit peu les parcelles pour faire des parcelles plus grandes, et puis il y a aussi, peut-être qu'il faut en parler, un programme d'intensification de certaines cultures, en l'occurrence le maïs, le blé, le manioc, les haricots, la pomme de terre et le riz, mais derrière cette intensification, il y a le désir d'augmenter les volumes pour exporter précisément ces produits. C'est une production à visée exportatrice, c'est ça qui se passe.
Je pense que c'était pas juste orienté vers l'exportation, mais aussi vers l'inter-échange au niveau du pays même. Donc en fait, on voulait augmenter la productivité aussi pour essayer de combattre la malnutrition et d'arriver à un état de sécurité alimentaire plus élevé.
Et de ce point de vue-là, ça a fonctionné ?
Ben, de ce point de vue-là, je suis beaucoup plus critique. Par exemple, aujourd'hui, et c'est un chiffre qui est d'ailleurs mentionné par le président Kagame lui-même, le taux de malnutrition des enfants s'élève à 38%, donc c'est un chiffre assez immense. Je pense qu'un des grands soucis, c'est qu'on a poussé les paysans à cultiver pour le marché, on leur a rendu dépendants d'un marché, mais un marché sur lequel ils ont très peu de pouvoir de négociation. Et malgré le fait qu'ils font part des coopératives, ces structures de coopératives n'ont pas permis aux petits paysans opérant à petite échelle de vraiment pouvoir tirer les bénéfices de cette productivité accrue. Et je pense que c'est ça le plus grand souci, c'est le fait que oui, il y a eu des outputs plus élevés, mais les petits paysans, les paysans opérant à petite échelle, c'est quand même la majorité de la population paysanne, n'a pas pu profiter de la valeur ajoutée qui a été créée.
Oui, et si on détaille un tout petit peu les choses, il y a eu plusieurs phases. D'abord, on s'est dit, bon, il faut professionnaliser l'agriculture, on a créé des associations de paysans, et vous dites qu'en réalité, c'est quelque chose qui a eu tendance à exclure les plus défavorisés. Au bout d'un certain temps, on a poussé ces associations à devenir carrément des coopératives. Et là encore, cette professionnalisation a encore davantage marginalisé les paysans les plus fragiles. C'est ça qui s'est passé à Nansum.
Certainement les plus fragiles et même ceux qui étaient un peu plus performants mais qui n'avaient pas les réserves pour combler les risques. En fait, le modèle agraire actuel, il pousse vers la productivité maximale, mais en même temps, ça impose des risques. Et ces risques sont aux paysans à être absorbés. Et donc, si toutes les choses vont bien, voilà, ça marche. S'il y a une saison où rien ne marche, alors c'est le petit paysan qui a du mal. Et ces petits paysans ont souvent pas des réserves pour pouvoir surmonter des crises comme ça.
Lauriane Ouzeimana, votre vision sur la politique agricole du Rwanda et peut-être en particulier depuis 2007-2008 où on a enclenché effectivement cette révolution verte. Alors, Anansom nous le disait, effectivement, peut-être que certaines choses se sont améliorées, peut-être que l'insécurité alimentaire a un petit peu reculé, mais pas tant que ça. Par ailleurs, c'est évidemment un sujet qui est extrêmement tabou au Rwanda. On l'évoquait il y a un instant avec le journaliste de Courrier International. C'est quelque chose dont on ne peut pas parler au Rwanda, à tel point d'ailleurs qu'on utilise d'autres mots pour parler de malnutrition au Rwanda. On parle de nzaramba, qui veut dire littéralement que ta vie soit longue, mais on n'utilise pas le terme de malnutrition. Je voudrais votre regard justement sur ce qui a été fait en termes de politique agricole depuis maintenant une dizaine, quinzaine d'années quasiment.
Nzaramba, ça veut dire je vais durer longtemps.
Voilà, c'est ça. Et c'est ça, c'est le terme qu'on utilise. Je l'ai appris hier en préparant cette émission pour parler de malnutrition.
Non, pour parler de la famine.
De la famine.
Nzaramba, c'est une famine.
Ouais, ouais.
C'est une famine qui est là, qui est en place depuis 2014. Il y a eu des milliers de Rwandais qui sont partis dans les pays voisins parce que justement il n'y avait plus rien à manger. Bon, alors je suis d'accord avec Madame Ansom sur ce qui est des efforts qui ont été fournis pour tenter de moderniser l'agriculture. Mais à mon avis, j'ai l'impression que il y avait peut-être la volonté n'était pas suffisante pour que le paysan puisse en profiter. Parce qu'il parle du système d'association, vous en avez parlé aussi, de coopératives. Les coopératives, c'est évidemment quelque chose de très positif. Même si on prend ici en France le vignoble du Languedoc, il a été sauvé par la coopérative au début du 20e siècle. Donc la coopérative, c'est quelque chose de positif quand à une seule condition, c'est que la coopérative soit démocratique. C'est-à-dire, si vous amenez vos produits, vous êtes sûr de pouvoir les récupérer. Or, les coopératives au Rwanda sont directement liées au pouvoir. Vous pouvez vérifier partout. Et ce qui fait que le paysan, il amène sa production. Vous parliez du maïs. Le maïs, par exemple, on en produit, mais on n'a pas le droit de toucher un grain de maïs ou de riz. D'abord, la coopérative qui prend ce qu'elle veut. Ma sœur, dernièrement, elle a amené sa production de riz. Mais ça correspondait exactement à ce que la coopérative devait prendre. Elle est repartie, les mains vides. Donc, vous voyez, il y a une forme de spoliation. Je ne sais pas si c'est une politique en tant que telle, mais les réalités du terrain, c'est qu'il y a spoliation de la production. La pomme de terre, le Rwanda,
vous dites, vous ne savez pas si c'est une politique. La question de l'intention est très importante là-dedans. Est-ce que la situation est telle qu'elle est parce que, au fond, on veut l'organiser comme cela et que on veut, d'une certaine manière, capter cette manne agricole? Ou est-ce qu'au fond, c'est parce qu'on est dans une situation où on n'est pas encore en capacité de redistribuer toute cette richesse?
Non, c'est, à mon avis, c'est une intention bien visible.
Qu'est-ce qui vous fait penser?
Si vous prenez la pomme de terre, par exemple, le paysan qui produit ces quelques kilos de pommes de terre n'a pas le droit d'y toucher. Il amène tout à la coopérative de l'État, à la coopérative du FPR. Et on lui donne ce qu'on veut. On lui donne un prix qui n'est pas le prix du marché, le prix qu'on décide de lui donner. À Ruhengeri, par exemple, où on produit beaucoup de pommes de terre, l'année passée, les paysans étaient en grève. Ils ne voulaient pas produire de pommes de terre. Pourquoi? Parce que ça rapportait rien. Je parlais du riz. Je parlais du maïs. Le maïs, c'est là où les résultats, comme le dit Madame Ansom, où les résultats ont été les plus spectaculaires. Je le dis. Mais ce maïs-là n'a servi à rien du tout, puisque le maïs qui provient de l'Ouganda est moins cher, ou de Tanzanie est moins cher. Donc, ce qui fait que le paysan a produit, mais la coopérative était incapable d'acheter le maïs. Donc, le paysan, il est resté avec son maïs qui ne sait pas, parce que ce n'est pas une consommation courante, le maïs. C'était une sorte de, tout simplement, d'amuse-gueule auparavant. Mais maintenant, on veut en faire la base de l'alimentation. Alors, le paysan, évidemment, se retrouve avec du maïs qui ne peut pas vendre. Et il y a tout un tas d'exemples de ce type qui montrent que maintenant, l'agriculture est aux abois, à mon avis. Je le dis clairement, il est aux abois, parce que je suis en contact avec mes frères et mes sœurs, ça va mal.
Ça va mal, l'agriculture est aux abois. Et pour revoir peut-être à Nansum, si effectivement il y a eu l'intention de mettre les paysans, j'allais dire, sous une forme de régime de domination, c'est peut-être un petit peu fort, mais en tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et je voudrais peut-être évoquer un point, et puis vous poursuivrez ensuite absolument librement, mais il y a un point qui me paraît très important qu'il faut évoquer, c'est la question de la confiscation. Parce que cette peur, la peur des confiscations des terres, des paysans, c'est une angoisse absolument obsédante pour les Rwandais, dont l'attachement à la terre est extrêmement profond. Et il se trouve qu'il y a une loi, depuis je crois 2005, qui fait qu'on peut confisquer des terres à des paysans. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus et peut-être que ça nous donne un peu des éléments, ça permet d'illustrer peut-être justement ce régime de domination qu'on voit bien là, se mettre en place et qui soumet les agriculteurs, qui soumet les paysans.
Ben, j'aimerais tout d'abord juste nuancer un petit peu, parce que je pense pas que c'est la politique de frustrer les paysans. C'est pas une politique officielle. Et au niveau des coopératives, il y a aussi des coopératives qui marchent très bien et qui ont pu créer de la valeur ajoutée qui est revenue aux paysans. Mais je pense que c'est plutôt, on discute maintenant plutôt par rapport à l'architecture de la politique agraire. Et donc l'idée, c'est de rassembler les paysans, de créer des structures qui vont négocier des prix pour eux, qui mettent leurs production sur le marché et qu'ils échangent comme ça. Et donc là, ces coopératives jouent un rôle clé et c'est vrai qu'ils sont forts insérés dans un système de performance, un système qui est bien surveillé par les autorités sur place. Dans certains cas, ça marche. Dans d'autres cas, ça ne marche pas. Je suis d'accord avec Laurien qu'il y a eu des couacs. Je pense pas que ces couacs sont généraux, que c'est ça le système en tant que tel, où il y a une intention de créer des couacs. Mais il y a des couacs et ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'on peut de plus en plus discuter de ces couacs de façon ouverte, même aussi au Rwanda. Ça, c'est quand même quelque chose qui a changé.
Mais sur cette possibilité d'exproprier les paysans de leurs terres,
oui.
Ça, c'est quand même une loi qui est quand même... je voudrais que vous nous expliquiez un petit peu pourquoi est-ce qu'on a fait voter cette loi.
Les choses sont un peu différentes. Tout d'abord, dans les marais, dès le départ, on a confisqué tous les terres, en disant que dans les marais, les terres n'ont jamais vraiment appartenu aux populations. Et donc là, on a tout de suite installé un système de coopératives, d'associations et de coopératives dans lequel que les gens travaillent ensemble. Et donc là, effectivement, les gens ont perdu accès aux terres que des fois, ils cultivaient depuis des décennies, des fois même des générations. Et ça a été quelque chose assez difficile. Ça s'est passé déjà entre 2006, 2008, 2009. Ensuite, les collines...
Mais pourquoi on l'a fait?
Pour les marais, on l'a fait parce que on voyait ça comme une phase pilote par rapport à la politique agraire et parce que officiellement, bon, ça dépend des interprétations des lois, mais officiellement, les marais étaient toujours propriété de l'État et donc selon la version officielle, l'État avait le droit de réclamer ces terres pour une politique agraire orientée vers la productivité. Par contre, dans les collines, là, on était plus clair que voilà, les paysans ont droit à leurs terres, mais c'est vrai qu'on a voté une loi dans lequel que on spécifie que les terres peuvent être confisquées si le paysan ne se met pas dans un format de production comme les autorités le souhaitent. Donc, si on n'est pas productif, on peut réclamer les terres. Et ça se passe. C'est vrai que des fois, ça se passe que quand les paysans ne sont pas capables de s'insérer dans le système, qu'ils peuvent perdre leurs terres. Des fois, ils laissent leurs terres eux-mêmes. Des fois, on voit ça aussi qu'il y a des terres qui ne sont plus cultivées parce que voilà, les paysans ne trouvent pas suffisamment de bénéfices par rapport au système qui leur est imposé. Et donc, ça, c'est assez bizarre dans le paysage rwandais, de voir des terres qui ne sont pas cultivées.
Comment est-ce qu'on vit tout ça, Lauriane ou Ezaïmana, dans les zones rurales? On le voit, on a une situation qui est particulièrement préoccupante dans les campagnes, vous le décriviez. Il y a, au fond, quasiment une augmentation de la pauvreté, contrairement à ce que nous disent les chiffres. J'imagine qu'il y a des rancœurs, évidemment, à l'égard de ce gouvernement qui, de surcroît, présente la situation économique comme favorable à la population et au reste du monde, alors que c'est pas vraiment le cas. Est-ce que vous pensez qu'il existe aujourd'hui dans ces zones rurales un risque d'explosion sociale, Lauriane Ouzaïmana?
Mais ça m'étonne même que ça ne soit pas arrivé. Parce que quand vous voyez la villagisation, les villages, on a créé, on a rassemblé les gens dans ce qu'ils appellent les midougoudou. Ce qui veut dire que, évidemment, les gens sont éloignés de leurs terres. Ce qui est, dans ce cas-là, les fertiliser devient impossible parce qu'il s'agit de transporter sur le dos du fumier jusqu'à des kilomètres et des kilomètres. Finalement, ça ne marche pas. Alors, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils abandonnent, ils ne cultivent pas ces terres-là et ils louent à prix fort les terres proches des villages parce que c'est là qu'on peut fertiliser. Alors, pour ce qui est ce problème de terres, de l'État pouvant confisquer les terres, eh bien, il faut dire que maintenant, c'est quelque chose qui crée des tensions énormes. Il faut payer l'impôt. Maintenant, on paie un impôt sur les terres. Il paraît qu'on me disait récemment qu'on va payer, l'État va réclamer bientôt un impôt sur les terres possédées par les paysans. C'est quelque chose qu'on n'a jamais entendu au Rwanda, qu'on puisse payer un impôt sur la terre qui a été laissée par les ancêtres. Pour les marécages, je suis d'accord avec madame, en sorte que les marais ont toujours appartenu à l'État, mais qu'il est donné, qu'il est cédé aux paysans qui produisaient des cultures vivrières habituelles, patates douces surtout, qui étaient, c'est une culture, disons, de coupe famine, si je peux dire. C'est-à-dire que comme la patate douce produit beaucoup, eh bien, elle permet, et il y a toujours de l'eau dans les marais, donc ça permet de réduire les déficits alimentaires.
Ensemble, une toute dernière question, je vais vous demander d'être relativement courte parce qu'ensuite on va accueillir un nouvel invité pour parler un petit peu de démographie, mais c'est intéressant ce que vient nous expliquer Lauriane Wilson-Imana parce qu'il nous parle de peut-être un impôt sur la terre et il nous dit que c'est inédit au Rwanda. Le meilleur outil quand même pour organiser la redistribution de la richesse, ça reste l'impôt. Quel bilan est-ce qu'on peut faire là de la politique fiscale pour tenter de réduire justement les inégalités et assurer une meilleure répartition des dividendes de la croissance, Anand?
Je pense qu'effectivement, c'est pas si évident de mettre des impôts sur la ressource rare, qui est très importante pour la majorité de la population. Et surtout aussi, pour revenir à la question de l'explosion sociale, c'est vrai qu'aujourd'hui, on fait face à une situation où il y a beaucoup de jeunes qui sont poussés en dehors de ces secteurs agraires parce qu'ils voient leurs parents souffrir ou en tout cas se battre pour survivre là-dedans. Et en même temps, il n'y a pas vraiment des secteurs économiques qui peuvent les absorber. Donc ça, c'est, je pense, effectivement un souci, un risque potentiel. D'autre part, je trouve ça quand même intéressant qu'il y a aussi des ouvertures au niveau du Rwanda même de parler de ces situations-là et assez surprenant des fois des débats communautaires qui se passent au niveau des chaînes radio locales où les autorités sont appelées à répondre à des questions critiques de la part des journalistes mais aussi de la part des gens sur place. Et donc ça, c'est pour moi aussi un signe d'espoir que il y a aujourd'hui plus de débats qu'il y avait il y a 3 ou 4 ans.
On va retrouver un nouvel invité pour parler de démographie, parce que pour que le développement soit le plus efficient possible, il faut maîtriser sa démographie. On va s'intéresser à l'impact des crises politiques sur la démographie et aussi aux nouvelles politiques de planning familial qui ont été mises en place dans la perspective de limiter la population et de permettre un meilleur développement. Bonjour Michel Garenne.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes démographe et chercheur à l'Institut Pasteur. On va venir dans un instant à la question du planning familial, mais d'abord sur la crise évidemment de 94. Quand on regarde aujourd'hui, la population rwandaise, c'est 13 millions d'habitants. C'était 8 millions en 94 au moment du génocide. Donc si on s'en tient purement aux chiffres, on se dit que les effets du génocide sur la démographie ont été rattrapés. Sauf que quand on regarde les choses de plus près, c'est plus compliqué que ça. Il y a des effets que les démographes appellent de cohorte, qui laissent des traces beaucoup plus durables. Michel Garenne.
Oui, la récupération, évidemment, dans un contexte où la mortalité a diminué et la fécondité était encore élevée dans les années 90, eh bien, vous avez un excédent de naissances sur les décès, donc évidemment, la population va vite récupérer, d'autant plus qu'il y a eu des migrations de retour des Tutsis émigrés en Ouganda qui sont venus combler le déficit du génocide. Mais en tout cas, ce qui est fondamental, c'est l'excédent de naissances sur les décès, bon, qui a diminué ces dernières années, mais qui était encore très important, puisque la fécondité dans les années 80, c'était 8 enfants par femme au Rwanda.
Alors, je voudrais maintenant peut-être qu'on s'intéresse, Michel Garenne, aux politiques de planning familial qui sont mises en place après le génocide. Qu'est-ce qu'on met comme mesures, nouvelles mesures en place, et quels effets elles vont avoir ?
Eh bien, essentiellement, on a réactivé l'ancien programme de planning familial qui avait été mis en place dans les années 80 et qui avait peu marché. Et on l'a fait marcher comme il faut, tout simplement en mettant des moyens considérables, des moyens financiers, des moyens humains, et en essayant d'atteindre toute la population et pas seulement les élites urbaines ou certains gros villages. Donc on a essayé de couvrir l'ensemble de la population. On a fixé des limites de 4 enfants par femme au maximum, et on a distribué des contraceptifs partout dans tout le pays.
Et ça a fonctionné, y compris dans les zones rurales. La transition démographique est en cours ?
Oui, elle est bien en cours, puisqu'on est passé, pour résumer, de 8 enfants à 4 enfants par femme entre 97 et 2017, donc en l'espace de 20 ans, ce qui fait les deux tiers de la transition démographique, puisqu'il faut passer de 8 enfants à 2 enfants, et donc ça c'est tout à fait remarquable. C'est un des pays où la transition dans le milieu rural a été une des plus rapides en Afrique ces 20 ou 30 dernières années.
Et c'est une transition démographique qui a été épaulée, accompagnée par la communauté internationale.
Complètement, oui, oui, c'est l'aide américaine et l'aide anglaise, et essentiellement les institutions internationales, le FNUAP et une multitude d'acteurs sur le terrain qui ont engendré ce changement majeur. Dans d'autres pays d'Afrique, c'est pas le seul, au Zimbabwe c'était la même chose quelques années avant, en Afrique du Sud dans les années 70, il y a eu beaucoup d'exemples où ça a bien marché.
Donc c'est plutôt une réussite. Michel Garen, vous le disiez, la transition démographique est engagée, mais une fois encore, si je regarde les chiffres, la population du Rwanda c'était 7 millions en 91, c'est quasiment le double aujourd'hui. Par ailleurs, c'est un pays qui est très dans ses peuplé, c'est 400 habitants au kilomètre carré, ce qui est beaucoup plus que la plupart des pays d'Afrique. Est-ce que c'est une situation démographique qui est, j'allais dire, tenable au regard du développement socio-économique du pays, ou est-ce que vous pensez qu'il y a, au fond, déjà aujourd'hui, une menace de surpopulation ?
Alors, il y a toujours eu une surpopulation au Rwanda, au Burundi et dans d'autres pays comme le Malawi voisin. Et il y avait, à l'époque, même à l'époque coloniale, il y avait encore des famines absolument énormes, dans les années 1915-1917. Dans les années 42-43, il y a des famines qui décimaient la population. Donc ce problème de surpopulation dans le Rwanda, au Burundi c'est la même chose, est ancien. Alors on a pu contourner ce problème en augmentant la production agricole, et donc il n'y a plus de problème maintenant de famine, mais le problème de la densité de population est de plus en plus aigu. Hein. Vous avez cité le chiffre de 400 habitants au kilomètre carré, c'est 10 fois la moyenne pour l'Afrique. Hein. Donc c'est tout à fait considérable, et ça, alors on espère stabiliser la population à 20 ou 30 millions d'habitants, on ne sait pas trop exactement les projections de la population des Nations Unies, donne 28 millions à l'horizon 2100, mais même actuellement on peut considérer que le Rwanda est un pays surpeuplé, oui.
Je voudrais faire réagir nos invités Anansom et Lauriane Ouzeimana. D'abord Anansom, peut-être sur cette situation déjà de surpopulation au fond qui évidemment aggrave la pression foncière dont on parlait il y a quelques instants, il y a quelques minutes, Anansom.
Oui, tout à fait, c'est un très grand souci, et c'est pour cette raison que c'est une très bonne chose que le taux de fécondité a fortement diminué au cours des dernières années. Et effectivement, je pense qu'aujourd'hui, le problème de surpopulation dans les campagnes se montre à travers la présence de ces jeunes qui sortent, ou qui en tout cas n'ont plus de futur dans le secteur agraire, et qui en même temps n'ont pas forcément les compétences pour être absorbés dans une autre type d'économie, d'économie de services et d'industrie.
Lauriane Ouzeimana, réaction.
En 1990, moi je suis aussi un ancien de Louvain, Madame Hanson, j'ai fait Louvain aussi, donc ils ont des méthodes qui mettent en relation population et développement. Et ces méthodes, je les avais appliquées en 90, et la courbe de la production agricole qui avait monté pendant un certain temps avait atteint la droite, ce qu'ils appellent la droite malthusienne, c'est-à-dire que au-delà, c'est l'ajustement. De sorte que même ce qui s'est passé, c'est une forme, c'est une forme d'ajustement. Évidemment, les hommes ne sont pas comme les animaux, mais là aussi, on peut dire que en grande partie, ce qui s'est passé en 94 était lié à ce manque de perspective pour les jeunes, étant donné la surpopulation et l'épuisement du modèle qui a été mis en place. Alors moi, je me demande maintenant, et à l'époque, c'était uniquement 7 millions d'habitants. Alors maintenant, avec 12-13 millions, je me demande comment on fait. Je me demande comment on fait avec des systèmes qui n'ont pas fondamentalement changé. Et c'est pour cela que la situation de disette, Nzaramba, comme je disais, je vais durer longtemps, les paysans, ils ne sont pas bêtes. Eh bien, moi, personnellement, j'avais conseillé à l'époque de chercher fortune ailleurs. Le Rwanda ne peut pas nourrir 13 millions d'habitants. C'est impossible, à moins de faire un saut technologique, mais alors énorme. Ce qui ne me semble pas être le cas. Et moi, j'avais proposé de voir dans les pays voisins, parce que le Congo, évidemment, la zone proche est très peuplée, mais plus loin, c'est vide. Donc, la solution pour moi, le saut technologique, ce n'est pas pour demain, pour moi, me semble-t-il. Même les tentatives, ce qu'on nous raconte là, voilà, on a fait des miracles. Ces miracles, c'est du vent. Pour moi, c'est du vent.
Un an de somme, et ça sera peut-être ma dernière question, on arrive presque au terme de cette émission. Vous disiez, c'est cette jeunesse qui, au fond, ne trouve pas sa place dans les zones rurales et ne peut pas, au fond, dignement cultiver la terre et vivre, et qui, en même temps, ne trouve pas sa place dans les zones urbaines. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'entre-deux, il n'y a pas au Rwanda quelque chose entre la paysannerie pauvre, pardon, et l'élite urbaine. Il n'y a pas de classe moyenne.
Il y en a peu, mais je pense qu'il y a d'autres options. La piste qu'on a prise actuellement avec le secteur agraire n'est, selon moi, pas la piste la plus optimale. Je pense qu'on pourrait innover le secteur agraire, mais en l'orientant beaucoup plus vers un modèle travaillant sur des petites échelles, tenant compte de la complexité écologique, aussi du changement climatique, qui devient de plus en plus un défi à prendre en compte aussi, et un secteur agraire qui est intensif en termes de main-d'œuvre, qui ne pousse pas vers la mécanisation, mais qui pousse autant que possible vers l'absorption de la main-d'œuvre de ces jeunes.
Est-ce qu'il y a un non-somme, une classe moyenne au Rwanda? Quand on parle d'émergence d'une économie, évidemment, un bon indicateur, c'est la classe moyenne. Est-ce qu'elle existe au Rwanda?
Je pense qu'il y en a une, mais qu'elle est relativement petite et qu'elle n'arrive pas à être suffisamment... Elle ne donne pas suffisamment de réponses pour ces jeunes qui tombent massivement en dehors du secteur agraire.
Rwanda teyo gozo Rwanda ufite ibiyanga byiza Rwanda ufite ibisiza Rwanda.
Merci beaucoup à tous nos invités. Michel Garenne, qui était avec nous à l'instant par téléphone, mais aussi Lauriane Ouzeimana, qui est en duplex de Toulouse. Je remercie d'ailleurs les techniciens qui ont permis de faire les liaisons. Et un grand merci également à vous, Anand Som, toujours en duplex de Bruxelles. Je remercie également les techniciens qui ont permis de faire les liaisons jusqu'à nous. Ce que vous entendez en ce moment, c'est Magnifique Rwanda, Rwanda Ruiza, de Jean-Paul Samputu. Un très beau morceau déniché par Benjamin Hu, qu'on mettra évidemment en référence sur le site de Culture Monde. Mais pour l'heure, 11h53, l'heure pour nous de retrouver Brice Couturier, son tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Et depuis le début de la semaine, vous nous parlez démocratie, populisme. Un coup d'arrêt au populisme centre-européen a-t-il été donné ce week-end par les électeurs slovaques, Brice?
Eh oui, l'élection de Zuzana Kaputova à la présidence de la République de ce pays a rendu l'espoir à bien des observateurs, hier encore fatalistes et désabusés. Ainsi, le politologue polonais Sławomir Kierakowski écrit que cette victoire surprise contre le candidat populiste est peut-être le signal d'un changement de météo politique dans toute la région. Et Milan Nitz, en charge de l'Europe centrale au German Council on Foreign Relations, que cette élection, je cite, « démontre qu'il existe une alternative aux forces illibérales et au contrôle politique centralisé développé en Hongrie et en Pologne ». En tous les cas, c'est un coup dur pour le parti Smer SD, au pouvoir en Slovaquie depuis 2006, avec une interruption de 2010 à 2012. Son candidat à la présidence a donc été battu, alors même qu'il s'agissait du vice-président de la Commission européenne sortante, Maros Šefčovič. Shevchovitch, j'y arriverai. Il y a un an, le leader charismatique du SMER, SD, Robert Fico, avait dû démissionner suite à l'émotion provoquée par l'assassinat, on s'en souvient, du journaliste d'investigation Jan Kuciak et de sa compagne Martina Kusnirova. Kuciak enquêtait sur les liens noués entre des hommes d'affaires liés au pouvoir et la mafia calabraise. Un affairiste richissime, Marian Kočner, a été récemment inculpé par la justice slovaque. Il est fortement soupçonné d'avoir commandité l'assassinat du journaliste. Cette affaire a donné lieu, on s'en souvient, à Bratislava, aux plus importantes manifestations jamais vues dans le pays depuis la révolution de velours de 1989. Alors la nouvelle présidente slovaque, c'est qui ? C'est une avocate libérale qui a créé son propre parti afin de mener précisément la lutte contre la corruption. Elle a fait campagne sur le thème de la décence. Sur son compte Facebook, on trouve cette maxime révélatrice. La seule chose qui soit nécessaire pour que triomphe le mal, c'est que les gens bien ne fassent rien. Les médias européens la comparent souvent à Emmanuel Macron, dont elle partage les vues sur l'avenir de l'Europe, mais son parti, Slovaquie progressiste, n'est soutenu à l'heure actuelle que par 3% des sondés. Il faut dire que le paysage slovaque est tellement éparpillé que les populistes de gauche, du SMER SD, peuvent espérer continuer à gouverner. Songez que vous avez là-bas un parti conservateur appelé « Nous sommes une famille » dont le président se vante d'être le père de 9 enfants conçus avec 8 femmes différentes. Or, la politique familiale est devenue en Europe centrale, dans le contexte de l'effondrement démographique de ces petites nations incertaines de leur avenir, un enjeu politique fondamental. Ainsi, en Hongrie, où le taux de fertilité des femmes est particulièrement bas, 1,45 enfants par femme, et où tout recours à l'immigration pour éviter le vieillissement du pays a été écarté par Viktor Orban, et bien celui-ci a récemment annoncé une politique familiale extraordinairement généreuse. En effet, les femmes qui élèveront en Hongrie 4 enfants ou plus seront exemptées d'impôts sur le revenu leur vie durant. Une manière de les encourager à mener des carrières lucratives tout en créant des familles nombreuses. Les mères de 3 enfants hongroises et plus recevront, elles, une prime équivalente à 7 800 € destinée à leur permettre de faire l'acquisition d'une voiture de 7 places, dit Orban. Manière de leur faire savoir qu'elles doivent en enfanter davantage, bien entendu. Quant aux grands-parents, eh bien, toujours en Hongrie, ceux qui prennent en charge leurs petits-enfants afin de permettre aux 2 enfants de pouvoir travailler, ils auront droit à une retraite anticipée et à d'autres avantages fiscaux. Alors la presse économique a critiqué ces mesures, assurant qu'elles étaient impossibles à financer, c'est possible. Mais à l'heure où chez nous on discute de supprimer le minuscule avantage dont bénéficiaient sur leur pension de retraite les personnes ayant élevé au moins 3 enfants, eh bien la différence est frappante. D'ailleurs, la Pologne catholique et conservatrice, elle aussi, mène une politique familiale ultra généreuse.
Alors Brice, la question à 1000 euros. Le moment populiste centre-européen est-il en train de passer ?
Écoutez, il est un peu trop tôt pour le dire, même si c'est assez probable. Mais l'éviction des populistes au pouvoir passe par 2 conditions. 1. L'unité des forces d'opposition. 2. L'apparition de personnalités nouvelles. L'approche des élections municipales en Hongrie pousse ainsi tous les opposants au Fidesz à se regrouper. Et il est à peu près certain d'ores et déjà que l'opposition va gagner ainsi la mairie de Budapest. En Pologne, face aux catholiques ultra-conservateurs au pouvoir du PiS, une vaste coalition allant du centre-droit, plateforme civique de Donald Tusk, au vert, en passant par le parti paysan, le parti modernité et ce qui reste de la gauche avec le SLD, eh bien, ils sont parvenus à former une coalition électorale. Mais comme en Hongrie, s'ils parviennent à défaire le parti populiste au pouvoir, parviendront-ils pour autant à former un gouvernement homogène ? En tout cas, les sondages qui accordent plus de 40% à cette coalition annoncent une probable défaite du PiS aux élections parlementaires d'octobre. Quant à la personnalité nouvelle dans ce pays, on la connaît déjà, j'en ai parlé, c'est Robert Biedron, le candidat qui prône la séparation de l'Église et de l'État.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. Dans un très court instant, on retrouve Olivia Gesbert et la Grande Table.